Radio France Internationale, il est 7h à Gaza, 6h ici à Paris. Un nouveau journal avec vous, Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et à la une de cette édition, reportage à Gazaville.
À l'hôpital Al-Arli, qui était jusqu'à présent le seul encore en fonction dans la bande de Gaza, était, car une frappe israélienne hier le met à l'arrêt. Les patients ont été évacués. Il raconte le chaos sur notre antenne. Le chaos aussi a Soumy en Ukraine après une frappe russe cette fois. Le bilan est très lourd, au moins 34 morts, une centaine de blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle son homologue américain Donald Trump à venir lui-même constater la réalité des frappes russes. Donald Trump qui continue à agiter la menace des droits de douane, principale cible la Chine, dont le président Xi Jinping cherche des alternatives. Il entame aujourd'hui une tournée en Asie du Sud-Est. Au Gabon, Brice Clotaire-Oligui Nguema donné vainqueur de la présidentielle, on va en parler. Vous entendrez également l'historien marocain Mahati Manjib qui dénonce sa situation graciée mais toujours inquiétée par la justice. Et puis on va revenir sur le sacre, le troisième de suite, du cycliste néerlandais Mathieu Van Der Poel sur le Paris-Roubaix. L'Organisation mondiale de la santé annonce la mort d'un enfant à l'hôpital Al-Arli de Gazaville. Il a succombé à une interruption de soins. C'était pourtant l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza jusqu'à hier. Et la frappe israélienne dont il a été la cible, l'armée israélienne qui la veille avait annoncé vouloir étendre son offensive à Gaza, affirme que l'établissement abritait un centre de commandement du Hamas. Le mouvement palestinien dément et dénonce un nouveau crime de guerre. Reportage à l'hôpital Al-Arli de Rami Al-Merari avec Abla Junaidi à Jérusalem.
Il est 1h30 du matin quand des cris déchirent le silence d'Al-Arli. Quelqu'un au dehors vient d'alerter, il faut évacuer l'hôpital. L'urgentiste Abdelkader Abou Samra tente de décrire la scène.
C'était indescriptible, le jour du jugement dernier. Les blessés grimaçaient de douleur, on les transportait sur des lits à bout de bras. C'était terrible. On a utilisé les ambulances pour évacuer autant qu'on pouvait.
Mohamed Abou Nasser, paralysé des deux jambes, est resté dans une partie du bâtiment qui n'a pas été détruite. La déflagration a jamais gravé dans la mémoire et la peur au ventre.
Nous, les malades, on dormait dans le service chirurgie. On était effrayés, terrorisés. Il n'y a plus d'endroit sûr.
Les urgences, la banque de sang, le laboratoire ont été soufflés, signant la fin des opérations pour le directeur de l'hôpital, Fadel Narim.
Ce sont les installations les plus importantes. On recevait 300 cas par jour, on réalisait des centaines de tests en labo et on ne pourra plus le faire. Il faudra rediriger les gens ailleurs à Gaza.
Ailleurs, mais où ? Aucun autre hôpital n'a les moyens qu'offrait l'hôpital Baptiste jusqu'à ce dimanche. Rami El-Merari, Gaza, Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Et parmi les réactions internationales, celle de la Jordanie qui dénonce une violation flagrante du droit international après cette frappe sur l'hôpital. Un crime odieux, dit pour sa part le Qatar. Pendant ce temps, à Jérusalem, les sirènes d'alerte ont brièvement retenti hier. L'armée israélienne a fini par parler d'un tir de missile venu du Yémen. Il a vraisemblablement été intercepté, nous dit l'armée. Les rebelles houthis yéménites, eux, disent avoir lancé deux missiles balistiques, l'un en direction de l'aéroport de Tel Aviv, l'autre vers la base militaire israélienne Sdot Misha. Les houthis qui annoncent au moins 5 morts et 13 blessés hier, toujours à l'ouest de Sanaa, au Yémen, après des frappes qu'ils attribuent aux États-Unis. Elles auraient notamment visé une zone industrielle. Depuis un mois maintenant, les Américains ont lancé une campagne aérienne contre les rebelles pour les empêcher de s'en prendre aux navires en mer Rouge. C'est une chose horrible, réaction du président américain après le bombardement d'hier à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, au moins 34 morts. C'est le plus lourd bilan de ces derniers mois dans une zone civile du pays. Il y a également plus d'une centaine de blessés. Donald Trump s'émeut, mais n'incrimine pas directement la Russie. Pour son Conseil de sécurité nationale, cette frappe constitue, je cite, un rappel clair et brutal de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu. Mais d'ici là, pour Volodymyr Zelensky, les Américains, et donc Donald Trump, même s'il ne le cite pas directement, devraient venir voir ce qui se passe en Ukraine de leurs propres yeux. Le président ukrainien l'a dit dans un entretien sur la chaîne de télévision américaine CBS, enregistré avant la frappe à Soumy dont je vous parlais à l'instant. Et pour le président ukrainien, impossible de prendre la mesure de la situation depuis Washington.
Nous voulons que vous veniez et je pense que vous devez venir et voir. Vous pensez comprendre ce qui se passe ici ? D'accord. Nous respectons votre position, vous comprenez. Mais s'il vous plaît, avant toute décision, tout format de négociation, venez voir les gens, les civils, les militaires, les hôpitaux, les églises, les enfants, détruits ou morts. Venez, regardez, et ensuite nous avancerons sur le plan de la fin de la guerre. Vous comprendrez avec qui vous avez conclu un accord. Vous comprendrez ce que Poutine a fait. Et nous ne préparerons rien. Ce ne sera pas du théâtre avec des acteurs préparés dans les rues, etc. Nous ne faisons pas cela. Nous n'en avons pas besoin. Vous pouvez aller exactement où vous voulez, dans n'importe quelle ville qui a subi des attaques. Ce que je dis, c'est de venir et de comprendre.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump prévient, il annoncera cette semaine des droits de douane supplémentaires sur les semi-conducteurs. L'offensive du président américain continue et aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine, dit-il. Bien qu'il ait annoncé des exemptions sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs, notamment très demandés par les Américains, mais les États-Unis imposent quand même désormais des taxes atteignant 145% sur la plupart des produits chinois entrant donc aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui une importante tournée en Asie du Sud-Est, 4 jours au cours desquels il va se rendre au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. L'occasion, Claire Broadhurst, de renforcer les liens économiques et diplomatiques.
Le président chinois entame sa visite au Vietnam où il devrait signer une 40aine d'accords de coopération dans des domaines clés, transport ferroviaire, agriculture, numérique ou encore développement vert. Mais la relation reste complexe, le Vietnam ayant récemment imposé des droits anti-dumping sur l'acier chinois. Prochaine étape, la Malaisie, où cette visite est présentée comme une étape importante dans les relations bilatérales. Les discussions devraient porter sur le commerce et les infrastructures. Le Cambodge, lui, reste l'un des plus proches alliés de Pékin. Le pays vient d'achever avec le soutien chinois la modernisation d'une base navale stratégique. L'Asie du Sud-Est est une zone économique cruciale pour Pékin. En 2024, les pays de l'ASEAN ont été les premiers clients des exportations chinoises, avec en tête le Vietnam et la Malaisie. Xi Jinping veut aussi mettre l'accent sur la coopération dans les technologies émergentes, comme la 5G ou l'intelligence artificielle, pour renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. Sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin veut se poser en partenaire stable face à une Amérique de plus en plus imprévisible, en misant sur la coopération régionale, l'innovation technologique et l'intégration économique. Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
La situation sécuritaire ne s'améliore pas en Haïti et Kenskoff en est l'exemple. C'est une commune du département de l'Ouest, non loin de Port-au-Prince. La quasi-totalité des localités de Kenskoff sont toujours sous le contrôle des gangs armés de la coalition Vivant Sarn qui continue à tuer, piller, kidnapper, incendier des maisons aussi. C'était une fois de plus le cas ce week-end dans la nuit de vendredi à samedi dans la localité de Godet. Des policiers ont été blessés. Correspondance depuis Port-au-Prince de Peterson Luxama.
Depuis l'offensive des gangs armés en février dernier contre Kenskoff, la ville compte ses morts et ses blessés. Sur ces 2 derniers mois, 262 personnes ont été tuées et 66 autres blessées, selon un rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, publié la semaine dernière. Des violences d'une brutalité inouïe qui empêchent les habitants, vivant surtout de l'agriculture, de rejoindre les champs pour semer. Les conséquences pourraient être catastrophiques, selon Jean Massillon, maire de la ville.
Il y a un problème d'insécurité alimentaire qui menace Kenskoff. La commune risque aussi un important manque à gagner sur le plan économique, car elle vit essentiellement de l'agriculture. Actuellement, malgré les pluies, les habitants ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas semer d'oignons, de carottes, ni de poireaux. La situation est catastrophique.
Et face à ce tableau pour le moins accablant, le maire invite les autorités en place à agir vite afin d'éviter le pire dans cette commune, autrefois paisible, loin des actions des gangs armés.
Il faut qu'il y ait une action concertée entre tous les représentants de l'État et l'ensemble des instances gouvernementales afin de se pencher sur ce dossier en vue de trouver une solution à cette situation.
Et si rien n'est fait, la note risque d'être salée. C'est toute la capitale qui en payera le prix. Déjà assiégée par les gangs, elle risque de ne plus être approvisionnée en légumes, dont Kenskoff est l'un des principaux fournisseurs. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Le président équatorien sortant, Daniel Noboa, parle d'une victoire historique. L'autorité électorale annonce qu'il est réélu après le second tour de la présidentielle d'hier. Alors les résultats ne sont pas encore définitifs, mais il est en tête avec 56% des suffrages contre 44% pour son opposante de gauche, Luisa González, qui, elle, prévient, elle ne reconnaît pas ses résultats. et elle réclame un recomptage. Au Gabon, c'est samedi que les électeurs étaient appelés à élire leur président et véritable plébiscite pour Brice Clotaire-Oligui Nguema. Selon les chiffres globaux provisoires du ministère de l'Intérieur, le chef de la transition recueille plus de 90% des suffrages, loin, bien loin devant son premier poursuivant Alain-Claude Bilibinzé, avec tout juste 3% des voix. Les candidats malheureux ont 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. On y revient évidemment largement dans nos éditions ce matin sur RFI. En attendant, au Maroc, l'historien Mahat Imanjib s'alimente à nouveau depuis hier après 3 jours de grève de la faim pour protester contre son interdiction de quitter le pays. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sa situation est réglée, non. Ce défenseur des droits humains est toujours suspendu de son travail et ses avoirs sont gelés. Il avait pourtant été gracié en juillet dernier, 3 ans après sa condamnation pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État. Il est aussi poursuivi dans une autre affaire pour blanchiment d'argent cette fois. RFI a pu joindre Mahat Imanjib. Il dénonce un acharnement et en appelle au roi Mohamed VI.
J'ai voulu m'adresser au roi du Maroc qui a donc signé une grâce. Et tout simplement, je ne comprends pas qui gouverne au Maroc. Parce que depuis 9 mois que la grâce royale a été publiée, je suis toujours objet de persécutions, d'interdictions de quitter le territoire. Ma maison, ma voiture, mon compte bancaire sont toujours gelés, alors que geler un bien ne peut pas durer plus de 2 mois, légalement. Aussi, l'interdiction de quitter le territoire ne peut pas dépasser 2 mois renouvelables 5 fois, c'est-à-dire 1 an. Je suis aussi renvoyé, alors que la grâce royale explicitement couvre mon renvoi de l'université, donc je dois être réintégré dans mes droits de professeur d'histoire à l'université de Rabat. Disons, les pressions continuent et ils veulent en fait que je baisse la tête. Et moi, je vous le dis, je n'arrêterai jamais mon travail pour les droits de l'homme et pour les libertés au Maroc. C'est de la persécution exercée par la police politique qui gouverne en fait au Maroc, depuis la maladie du roi.
Des propos recueillis par Pierre Firsion. Il était l'ultime représentant de la génération dorée de la littérature latino-américaine dans les années 60 et 70. L'auteur hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est mort hier à Lima, il avait 89 ans. Prix Nobel de littérature en 2010, on lui doit notamment La ville et les chiens, mais aussi Conversation dans la cathédrale. Mario Vargas Llosa restera le premier écrivain étranger à être entré de son vivant dans la collection très prestigieuse de la Pléiade. Il avait aussi été élu il y a 4 ans à l'Académie française. Les pavés, Mathieu Van Der Poel ne les écrit pas, lui, non, il les dompte. Le cycliste néerlandais a remporté hier pour la 3e fois consécutive le Paris-Roubaix, la reine des classiques, surnommée l'Enfer du Nord. Il s'est imposé en solitaire avec un petit peu plus d'une minute d'avance sur Tadej Pogacar, le Slovène, champion du monde et vainqueur du dernier Tour de France. Pogacar était vraiment pas loin de gagner, lui, cette course pour la première fois. Oui, mais il est tombé à 30 km de l'arrivée. Thomas de Saint-Léger a suivi la course.
Un virage pris trop large et c'est la cabriole, le maillot arc-en-ciel taché de la boue des pavés et sur le visage de Tadej Pogacar à l'arrivée, un sourire contrarié.
J'ai été un peu malchanceux, mais c'est ça Paris-Roubaix. Bien sûr, on était venu pour gagner, on s'est battu pour ça. Mais je pense que Mathieu était le meilleur aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai pour essayer de gagner.
Gagner Roubaix, c'était un pari fou. C'est devenu pour le futur une vraie possibilité. Mauro Gianetti, manager de Tadej Pogacar.
Je l'ai toujours pensé, je suis toujours persuadé de ça. Donc il est dans la course, on le savait, on le pensait en tout cas. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu la confirmation qu'il peut courir pour gagner.
La confirmation vient aussi de l'intérieur de ceux qui ont fait la course, loin derrière les deux phénomènes, le belge Oliver Nesson de l'équipe Décathlon à G2R.
Même à Roubaix, ils font 1 et 2, où il y a tellement de possibilités de malchance. Ils sont tellement forts qu'ils y sont un peu immunes, j'ai l'impression. Ils doivent avoir une lucidité que personne n'a. Ça fait qu'ils ne prennent pas les trous et ils voient les bonnes lignes. Et ils prennent les bonnes décisions et ils ont surtout 2 jambes de plus que le reste et 2 poumons de plus que le reste.
Avec encore un petit avantage technique pour Mathieu Van Der Poel et sa science du pilotage, le Néerlandais tentera l'année prochaine d'égaler le record de 4 victoires dans l'Enfer du Nord. Thomas Saint-Léger, Roubaix RFI.
Et il est 6h14 à Paris comme à Roubaix.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on sera aux États-Unis sur la tournée contre l'oligarchie. À la manœuvre, Bernie Sanders, sénateur du Vermont, figure de l'aile gauche américaine, bien qu'il ne soit pas encarté au Parti démocrate. Et il regrette l'absence de résistance politique face à Donald Trump. Alors il monte lui-même au créneau. Barbara Carlotti sera notre invitée culture ce matin. La chanteuse française revient avec un 6e album studio que vous écouterez peut-être, qui sait, en prenant votre petit déjeuner, à moins que vous n'ayez pas trop d'appétit en ce moment. Et dans ce cas, le conseil santé du jour vous intéressera. Mais d'abord, direction la Cisjordanie occupée, à la rencontre d'une communauté qui peut paraître un petit peu complexe, les Samaritains. Ils sont aujourd'hui environ 820, la moitié à Naplouse, en Cisjordanie occupée, donc l'autre dans la banlieue de Tel Aviv en Israël. Ces membres se revendiquent descendants des premiers Israélites, mais pas juifs, et ils sont détenteurs à la fois de la nationalité palestinienne et israélienne, ce qui en fait une communauté à part au Proche-Orient, au croisement de plusieurs influences. Un croisement pas forcément facile, car les Samaritains se disent en faveur de la paix entre Palestiniens et Israéliens. Sauf que je vous l'expliquais, ils disent qu'ils sont à la fois Palestiniens et Israéliens. Et c'est bien la guerre qui fait rage. Reportage près de Naplouse, c'était vendredi dernier à l'occasion des célébrations de la Pâque des Samaritains. Amira Swilem.
Sur les hauteurs du mont Gérizim, c'est jour de fête. Drapé, dans sa longue tunique et sa barbe blanche, le prêtre Hosni Wesef, 80 ans, salue avec déférence chacun des fidèles.
La Pâque samaritaine est l'occasion de célébrer notre sortie de l'esclavage imposé par le pharaon en Égypte. Et chaque samaritain au monde doit participer à cette célébration.
Des bûchers sont allumés, des agneaux sacrifiés. Gaza n'est qu'à une centaine de kilomètres d'ici. Alors, malgré les sourires, l'amertume n'est pas loin, elle non plus. Sa petite fille tenue par la main, Hendrarb, dit ne pas pouvoir s'empêcher de penser à ses compatriotes sous les bombes.
Malheureusement, on va avoir du mal à vraiment profiter de cette journée de fête. Que Dieu prête patience aux mères de Gaza qui ont perdu des enfants ou leurs maris.
À la fois palestiniens et israéliens, les Samaritains sont sur une ligne de crête.
On croit en la solution à deux États, un État palestinien aux côtés d'Israël. Il ne peut pas y avoir de paix sans l'existence des deux pays. Et nous, nous voulons la paix.
À cause de la guerre, les officiels palestiniens invités ont préféré décliner l'invitation. Les Israéliens ont fait un autre choix, occuper le terrain. Des grappes de policiers et soldats en uniforme arrivent. Et enfin, de façon plus inattendue, Yossi Dagan, le représentant des colons, établi en Cisjordanie occupée. Lui qui prône l'annexion des territoires palestiniens, multiplie les selfies et les discours politiques.
Cet événement est une célébration des Samaritains, mais pas que. C'est aussi une fête pour tous les Juifs de Judée-Samarie. On est ici dans un village israélien. Je ne viens pas à titre privé ici, mais en tant que représentant de l'État d'Israël.
Ce jour-là, armes en bandoulière, plusieurs partisans du Grand Israël, comme Ariel et son ami Elad.
On pense qu'une fois qu'on aura reconstruit le temple de Jérusalem, on y tiendra à l'avenir des célébrations similaires à celles d'aujourd'hui.
Oui, les Samaritains font partie de nous en quelque sorte.
Moi, ce qu'ils m'ont dit en tout cas, c'est qu'ils croient dans la solution à deux États. Israël et la Palestine, côte à côte.
Je vais te dire un truc. Ils sont politiquement corrects. Ils vivent sous autorité palestinienne, mais ils ont de nombreux proches à Holland, près de Tel Aviv. Alors, ils essayent de passer entre les gouttes.
Alors que les incursions des colons et de l'armée se multiplient à Naplouse, fief des Samaritains, la pression pour qu'ils prennent position n'a jamais été aussi forte. Amira Swilem, de retour de Naplouse, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Comme un air de campagne électorale aux États-Unis, alors il ne sera pas forcément le candidat, peut-être un petit peu âgé pour ça, mais Bernie Sanders joue en tout cas les rabatteurs. Voilà deux mois que le sénateur du Vermont, élu indépendant, sillonne les États-Unis pour ce qu'il qualifie de tournée pour combattre l'oligarchie. Et il n'est pas le seul dans ce combat, accompagné de la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante du Parti démocrate. Ce week-end, ils ont réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes lors de meetings en Californie et dans l'Utah. Alors que le Parti démocrate peine à incarner une opposition contre le gouvernement de Donald Trump, Bernie Sanders semble vouloir profiter de la brèche pour prendre sa place. Oui, mais pour quel but exactement? Pour en parler, on est avec notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Edouard Maillen.
Bonjour.
Alors avant les raisons, l'ampleur peut-être, c'est quoi l'ampleur de cette tournée contre l'oligarchie?
Alors ce samedi à Los Angeles, Bernie Sanders a annoncé 36 000 personnes, ce qui en fait le plus important rassemblement depuis le début de cette tournée. C'est vrai que c'était en Californie, une région très peuplée et démocrate, mais le chiffre est tout de même impressionnant. Et dans la soirée samedi, le sénateur a même fait une apparition surprise au festival de Coachella en Californie, l'un des plus importants festivals de musique du pays. Et ces rassemblements prennent de l'ampleur ailleurs. Il y a quelques semaines à Denver, 34 000 participants habitants et dans l'Arizona, 23 000 personnes selon l'organisation. Les chiffres sont en augmentation et la tournée contre l'oligarchie ne se cantonne pas aux régions démocrates. Elle a démarré dans le Michigan et le Wisconsin, deux États qui ont voté pour Donald Trump. Et cette semaine, le duo Bernie Sanders-Alexandria Ocasio-Cortez doit se rendre dans le Montana et l'Idaho, aussi des États républicains, mais difficile de savoir si l'engouement pour Bernie Sanders montre une tendance de fond pour soutenir ses politiques progressistes ou si le sénateur parvient surtout à surfer sur la vague du mécontentement contre Donald Trump.
Et alors c'est quoi l'objectif de ces rassemblements, Edouard ?
Déjà pour montrer une opposition à Donald Trump, alors que les démocrates ont du mal à afficher une stratégie unie. Alors rassemblement, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez critiquent les politiques du président et dénoncent ouvertement ce qui, à leurs yeux, est un tournant autoritaire. Mais en marge de ces meetings, Bernie Sanders rencontre également des potentiels candidats à des élections. L'objectif est d'avoir une personne proche des idées du sénateur dans les circonscriptions républicaines aux différents types d'élections locales, tout en cherchant à promouvoir l'engagement de personnes issues de classes populaires, un électorat qui semble désormais acquis à Donald Trump. Mais aussi, à 83 ans, Bernie Sanders pourra difficilement être candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais en se montrant aux côtés d'Alexandria Ocasio-Cortez, cette tournée prend l'air d'une passation de flambeau avec l'élu démocrate qui, elle, a 35 ans.
Et comment ces rassemblements sont-ils vus par le Parti démocrate ?
Alors, une partie des démocrates les plus progressistes se réjouissent du mouvement. Certains sont invités à partager la scène ou sont félicités ouvertement pour leur politique. Mais la branche centriste du Parti démocrate est inquiète, selon le journal Washington Post, avec la crainte que Bernie Sanders, un sénateur indépendant, soutienne des candidats progressistes qui viendraient concurrencer les démocrates dits traditionnels. De plus, les démocrates ne sont pas épargnés des critiques pendant ces rassemblements. Bernie Sanders a dénoncé l'influence des milliardaires et des intérêts des entreprises auprès de certains responsables du parti.
Merci Edouard Maille, correspondant de RFI aux États-Unis. Et si la musique pouvait conjurer une époque de chaos ? C'est le pari de la chanteuse française Barbara Carlotti. Son sixième album studio vient de sortir, ça s'appelle « Chéris ton futur ». Barbara Carlotti est notre invitée culture ce matin au micro de Sophie Torlotin.
Barbara Carlotti, bonjour.
Bonjour.
« Chéris ton futur », c'est le titre de l'album. C'est une façon de conjurer le sort en ces temps anxiogènes ou c'est vraiment une attitude que vous avez face à la vie en général ?
Alors l'histoire de la chanson, c'est que j'ai vraiment échappé très peu à un accident.
La mort est partout, elle t'attend à tous les coins de rue.
Ce texte-là, il est vraiment apparu comme ça après cet accident parce que j'ai vraiment eu très peur. Et je pense que du coup, il a fait un peu figure de talisman. C'est-à-dire, je me suis dit, s'il est sorti comme ça, c'est que je pense qu'il y a une attitude peut-être instinctive chez moi d'aller vers le bon, le bien, le beau, malgré tout. Et puis je pense que la période du Covid et tout ce qui s'est passé après, la guerre en Ukraine, enfin tous ces enchaînements absolument dramatiques, tout ce qui maintenant a envahi complètement l'actualité me fait penser que oui, on peut pas se laisser absorber par tout ce qui est absolument délétère dans l'actualité. Donc finalement, c'est devenu une sorte d'attitude en fait.
Donc chéris ton futur et soigne bien ton style.
Parce que c'est une chanson de l'album, mais c'est aussi le titre qui donne la tonalité en fait d'un album joyeux, solaire.
Mais je pense que moi j'avais besoin de musique solaire et joyeuse pour me redonner de l'énergie. En tout cas, moi je fais de la musique aussi pour trouver des réponses, me mettre dans un endroit agréable et doux et réconfortant. Enfin, il y a ça, puisque pour moi la musique c'est aussi ça, c'est vraiment un endroit de réconfort.
Sur cet album, Barbara Carlotti, il y a le titre Roma Amor, qui est un palindrome, ça peut se lire dans les deux sens. Il y a aussi le syndrome de Stendhal. Donc c'est vraiment un album sous le signe de l'Italie.
C'est aussi parce que j'ai fait une résidence. En fait, j'étais en train d'écrire l'album et j'avais pas du tout fini et je peinais un peu, justement, après cette période de Covid. J'étais avec Bertrand Belin, on faisait une performance pour les rencontres photographiques de Arles et le directeur des rencontres partait diriger la villa, en fait, Sam Sturze.
La Villa Médicis ?
Oui, la Villa Médicis. Et je lui ai dit que j'étais à un point où j'avais vraiment besoin de trouver un espace pour terminer cet album. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc évidemment l'album est rempli d'Italie. Pour moi, Rome, c'est vraiment la ville éternelle, la beauté. Il y a des peintures du Quattrocento, du Caravage partout, on se balade. Toute l'histoire de la sculpture, de la peinture européenne est à Rome, en fait. Donc c'est extraordinaire, en fait, de vivre ça, je trouve, moi.
Et on entend donc Philippe Catherine à plusieurs endroits. C'est une collaboration de longue date.
Philippe, on a travaillé ensemble à plusieurs reprises. Effectivement, on avait fait un duo qui s'appelait « Mon Dieu, mon amour » sur mon album « L'amour, l'argent, le vent ». Il y a des thématiques qui se retrouvent. Hein. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de philosophique pour moi de faire des chansons. Ça m'aide à penser philosophiquement le monde, c'est marrant. Philippe, il est donc présent et puis on est amis.
On avance vers l'inconnu. L'inconnu.
L'inconnu.
L'inconnu.
L'inconnu.
Mon bel inconnu.
On le prend toujours un peu pour un doudingue et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est juste, qui paraît juste un peu étrange pour le monde. Et justement, je trouvais que c'était beau que ce soit lui l'inconnu dans la chanson.
Barbara Carlotti, merci.
Merci à vous.
Si l'avenir est un dédale, dans les champs, l'espoir se dresse.
L'invité culture de RFI, elle était interrogée par Sophie Torlotin.
Le conseil santé avec Sunwa Assurance.
L'appétit vient en mangeant, dit le dicton, sauf que parfois ça ne vient pas du tout, et ce n'est pas anodin, la perte d'appétit, pourquoi et que faire aussi? C'est votre conseil du jour ce matin, votre conseil santé avec Caroline Paré et son invité.
Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal. Quelles sont les principales causes de la perte d'appétit?
Alors ça dépend. Une perte d'appétit qui est, disons, temporaire, ça nous est arrivé à tous en cas de maladie, on doit dire une infection, une maladie qui affecte le goût, l'odorat, des problèmes digestifs temporaires, on va dire, ça peut affecter tout le monde. Ça peut être aussi émotionnel, c'est-à-dire en cas de stress, dépression, etc. Et les conséquences sont préoccupantes lorsque cette perte d'appétit dure longtemps, elle est prolongée, parce que là, ça peut entraîner des apports nutritifs inférieurs à nos besoins, ce qui va entraîner un amaigrissement, de l'affaiblissement, des carences nutritionnelles, une immunité réduite, ainsi de suite.
À partir de combien de temps est-ce qu'on doit s'alarmer de cette perte d'appétit?
Moi, je dirais au-delà d'une dizaine de jours, on devrait vraiment consulter un médecin parce qu'il y a probablement une cause primaire dont il faut s'occuper.
Il va y avoir des conseils par rapport à la cause. Est-ce qu'il va y avoir aussi des solutions pour reprendre le goût de manger?
Absolument, il y a des solutions diététiques qu'on peut mettre en place selon, comme par exemple, il faut manger à des heures précises, réfléchir à ce qu'on va manger, s'organiser. Puisqu'on n'a pas d'appétit, on n'a pas envie de manger, eh bien, il faut mettre en place une structure qui va nous presque obliger de manger, parce que c'est finalement un devoir que de nourrir le corps.
Merci beaucoup Bintou Chersek. Aujourd'hui dans Priorité Santé, accompagner des parents qui vieillissent, apporter des réponses adaptées en termes d'organisation, de réduction des risques, sécuriser le cadre de vie, favoriser le bien-être et repérer les signes quand il faut faire appel à un professionnel de santé. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure, Caroline Paré. Le journal dans 2 minutes, mais d'abord c'est dans la playlist RFI Musique. Ce mois-ci, le Nigérian Rema Divine Ikubor, de son vrai nom. Il s'est imposé comme une figure incontournable de la vague afropop qui fait des ravages sur la planète musique. Voici Baby It's a Crime, Rema sur RFI.
Baby, baby, it's my money. You know, say you're matching my steeds. You know, I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. How is it, baby? How is it, you're there? Oh yeah, make you call a B. Oh yeah, show yourself to a basabi. Love is in the air. Baby, breathe in. Are they available? Baby, anytime you need me, are they available? Compatible, two of us, they compatible. Girl, I be bad boy, for girls, say, are they mellow? Ah, baby, are they phone? Baby, take it slow. Baby, go down low. Nobody has to know. Yeah, I know I play around, my man, I'll let you let you go. Baby, baby, some money. Say you match my steez. You know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real.
A baby, it's a crime, Rema. Dans la playlist RFI ce mois-ci. L'actualité africaine, c'est dans 30 secondes. Je vous souhaite une très belle journée à notre écoute.
La Mastroc, Jarring Effects et RFI Talent présentent
Longue plaine bordée d'étoiles.
Zar électrique.
Accompagné par les génies du Niger.
Découvrez Koyo, le premier album du trio franco-marocain de Marseille. Disponible en vinyle, CD et sur toutes les plateformes.
Ombre qui danse, tous unis dans la transe, tombent les masques et cadence. Mise en silence, tourne volée, avance, cherche les cieux dans les sens.